Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et je le disais, on parle beaucoup de loi de finances en ce moment, et pour cause, c'est le grand cirque budgétaire à l'Assemblée nationale. On en a terminé avec la commission des finances où aucun accord n'est survenu, et on va essayer de vous permettre de mieux comprendre, de mieux cerner, de discerner peut-être un petit peu tout ce qui se joue en ce moment sur ces aspects budgétaires et de loi de finances grâce à l'un des tout meilleurs spécialistes, Jérôme Barré. Bonjour Jérôme.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être au rendez-vous de Cœur de patrimoine pour le cabinet Yards. Alors bon, on est rentré dans le jeu de ce projet de loi de finances, le PLF, comme on dit chaque année. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On cherche, c'est pas qui veut gagner des millions, c'est qui veut gagner des milliards, c'est ça?
C'est à peu près ça, sauf qu'on ne sait pas très bien qui va les gagner. En tout cas, c'est pas moi. Mais bon, donc le gouvernement, pour revenir à des choses sérieuses, vise un effort total de l'ordre de 60 milliards d'euros pour redresser les comptes publics. Hein. C'est un effort qui est réalisé en deux volets, si je puis dire. Et c'est là où, effectivement, il y a une espèce de... Ça ressemble à du fundraising tel qu'on trouve aux États-Unis. Hein. L'idée, c'est d'avoir 40 milliards pour une baisse de dépenses et de lever 20 milliards supplémentaires de façon... a priori momentané ou provisoire, de contribution fiscale exceptionnelle.
Laissez-moi juste esquisser un tout petit sourire, parce qu'on rappellerait opportunément que beaucoup d'impôts censés être temporaires dans le passé existent toujours aujourd'hui.
Alors effectivement, j'en doute un peu. On pensait à la contribution exceptionnelle sur les revenus, et puis les plus anciens vous parleront toujours de la vignette automobile, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, qui a toujours été appliquée. Mais enfin, l'idée, elle est là. Si je fais 2 euros d'économie, ou si je lève 1 euro d'impôt nouveau, je ferai 2 euros d'économie. L'idée, elle est claire, elle est simple, elle est compréhensible. Et cette règle d'or, elle a été énoncée en vue de revenir à une diminution du déficit à 5% pour, en 2025, ce qui est peut-être difficile, mais au moins on tendra et on montrera un effort volontaire pour arriver en 2029, probablement, à moins de 3%.
Les fameux 3%. Alors, on va regarder un petit peu quelques mesures fiscales qui sont dans cet épisode parlementaire. D'abord, l'une d'elles concerne l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce que ça veut dire pour les contribuables aujourd'hui, pour vous et moi?
Alors, c'est assez contre-intuitif, parce qu'on vous dit en fait qu'on va augmenter globalement le barème de l'impôt sur le revenu. Et vous dites, mais quelle horreur, parce qu'effectivement, on augmente mes impôts depuis chaque année. Or, depuis 1969, on a tenu compte de l'inflation en augmentant l'impôt parallèlement à l'inflation. Cette année, on viendrait retenir pour 2024 un taux d'inflation de 2%. Alors là, on peut le discuter, mais ça veut dire qu'on augmenterait ce barème de 2%, ce qui veut dire que si votre rémunération a augmenté de 2% pour des raisons justement liées à l'inflation, vous ne changeriez pas de tranche.
Donc c'est
vous
laisser dans un confort. C'est plutôt favorable.
C'est très favorable, c'est vous laisser dans un confort technique qui est bien plus agréable.
Autre mesure marquante, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, elle n'existe pas déjà?
Alors, en fait, c'est une contribution exceptionnelle qu'on a appelée contribution différentielle sur les hauts revenus. On verra ce que c'est que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Là, c'est l'article 3 du projet de loi qui introduit cette contribution, et donc c'était une mesure phare. Cette contribution, elle a pour objectif de garantir que, pour certains, disposant de certains revenus, ils auront au moins un minimum de 20% d'impôts à payer. Je dis bien d'impôts, pas forcément de contributions sociales. Donc ça va concerner les foyers qui sont soumis déjà à la contribution exceptionnelle sur les revenus. C'est une contribution qui varie en fonction de votre revenu par foyer. 500 000 si vous êtes célibataire et 1 million si vous êtes un couple marié. Cette contribution, elle s'étale entre 3 et 4%. Cette contribution, elle avait été mise en place par M. Sarkozy. Elle était exceptionnelle, mais elle dure toujours.
Oui.
Ce qui fait que, par exemple, dans le cas de la flat tax, vous n'êtes pas taxé à 30%, mais vous êtes taxé à 34%, jusqu'à 34%. Eh bien là, en l'espèce, on va vérifier si le taux d'imposition réel des foyers, incluant l'impôt sur le revenu, et la CHR, donc à certains prélèvements, est inférieur à 20%. Et si vous êtes inférieur à 20%, vous allez être ramené à 20%, donc vous aurez une taxe supplémentaire. Cette mesure, elle devrait être temporaire, elle devrait durer de 2024 à 2026, et son rendement est estimé à 2 milliards d'euros. Ça n'est pas gigantesque, mais si on voit 40 milliards, c'est pas neutre. Cédric, un seuil trop brutal et avec des ajustements entre 250 000 et 330 000 euros pour les célibataires et entre 500 000 et 660 000 euros pour un couple.
Autre dispositif qui est évoqué, c'est un acronyme qu'on entend beaucoup dans le monde patrimonial, c'est le LMNP, la location meublée non professionnelle. Qu'est-ce qui va changer ?
Alors, vous vous souvenez, vous le savez tous les jours, c'est que c'est très compliqué, notre LMNP, c'est très favorable. Ça permet à beaucoup de propriétaires de remettre en état des biens. On se souvient des gîtes ruraux, hein, c'était l'ancêtre de ce sujet. Ça a permis pour des agriculteurs, pour des non-professionnels, de pouvoir remettre en état leurs biens. Et puis finalement, on a eu des plateformes qui sont intervenues, et donc ça a été la ruée. Et cette ruée, elle panique un peu, notamment les élus locaux.
Ouais,
donc,
dans les centres-villes très urbains, notamment.
Hein, et dans les centres-villes très urbains. Avec, le dit-on, une concurrence avec le domaine hôtelier. Alors, ce mécanisme, il vous permet de procéder à un amortissement, c'est-à-dire que, en fonction de vos comptes, vous avez le droit de tenir compte de l'usure du bien. On considère que ça s'use plus vite si vous le louez de façon temporaire que si vous le louez de façon, annuelle, notamment sur la location nue. Et donc, dès 2025, les amortissements qui ont été déduits du prix d'acquisition, vous les retrouverez au moment où vous vendez le bien. C'est-à-dire qu'en fait, on va diminuer le prix de revient que vous avez payé effectivement, du montant des amortissements qui ont été pratiqués. Ce qui veut dire que si on diminue ce prix de revient, c'est qu'on va augmenter votre plus-value finale. Donc ça réforme beaucoup le système. Et l'idée, c'est de modérer l'attrait, particulièrement dans les zones touristiques, et encourager les investissements dans la location de longue durée. En revanche, ça marche pour une partie de la population, mais si vous avez une résidence d'été que vous voulez occuper de temps en temps, vous la jouerez jamais à l'année. Et donc, cette nuance, elle a du mal à s'introduire aujourd'hui, et il est clair qu'il y aura encore des changements. Bon, enfin, on peut penser qu'il y aura encore des changements.
Autre thème qui a beaucoup fait parler ces dernières heures, c'est tout ce qui concerne les non-résidents, etc., leur fiscalité. Il y a pas mal de clarifications qui ont été apportées.
Alors, Ça encore un sujet, pardon, je vais être un peu technique, mais c'est ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Le bloc de constitutionnalité, c'est la hiérarchie des normes. Le droit interne d'abord, puis le droit conventionnel, le droit des traités internationaux, notamment des conventions fiscales internationales, puis le droit européen. Et dans cet ordre, si vous voulez, il y a une hiérarchie des normes. Cette hiérarchie des normes fait que normalement, si vous avez un conflit de loi entre l'article 4B, le fameux article 4B qui vous dit que vous serez résident si vous avez, en France, si vous y avez votre foyer ou lieu de votre séjour principal, ou bien le centre de vos intérêts économiques, ou bien une activité professionnelle non accessoire, votre job, dans ces cas-là, vous êtes considéré comme résident fiscal français. Cependant, s'il y a un conflit de droit et qu'on applique la convention par un mécanisme dit de subsidiarité, c'est la convention qui s'applique. Or, dans la doctrine de l'administration fiscale, on soutenait que si on était sous l'article 4B, eh bien on devait maintenir sous l'article 4B. Le Conseil d'État a sanctionné cette décision en disant non, il y a 4B, mais dès qu'il y a une convention, on appliquera la convention. Et puis cet aspect-là des choses a été remis dans la loi de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que l'administration
suive ce règlement. Donc les choses sont éclaircies, on va dire.
Exactement.
Un petit mot aussi concernant les startups. C'est vrai que je le rappelais avec un des intervenants précédents. On parle beaucoup du non-coté, donc les startupeurs, les patrons d'entreprises en devenir sont assez à l'écoute. Et il y a dans ce monde-là un nouvel aussi acronyme qui s'appelle les BSPCE. C'est un levier important. Alors d'abord, rappelez-nous peut-être ce que c'est et ce qui est prévu pour leur cas.
Le BSPCE, c'est le stock option de la société non cotée. Si vous avez une société qui a moins de 15 ans, vous permettez d'associer vos collaborateurs au profit futur en leur permettant, ces collaborateurs, de rentrer au capital de la société selon des modalités un peu plus favorables. Alors ça paraît simple comme ça, mais c'est un peu plus compliqué. Parce que si, Cédric, vous rentrez dans ma société et que je vous accorde des titres, ça peut être de la monnaie de singe si je n'ai pas prévu de clause de rachat. Donc en fait, c'est un incentive fort, parce qu'on sait très bien que dans les startups et quand on est en amorce, une activité, on n'a pas beaucoup de choses à distribuer. Et donc, on promet ou on dit, vous aurez un profit futur de cette
façon-là.
Quand ça ira mieux. Alors, ce qui est quand même intéressant, parce que ça, c'est un sujet qui était très ancien, qui avait été mis, pour ceux qui s'en souviennent, en place par M. Balladur avant 2000, avant même 1990. Mais c'est intéressant parce que ça permet aussi à des collaborateurs de rentrer au capital et finalement de passer à un statut d'acteur et pas uniquement de subir la rémunération qu'ils perçoivent, comme parfois on peut le ressentir. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Donc, c'est quand même intéressant. Or, ce système, quand vous avez une structure qui fonctionne bien, il n'est pas rare que vous soyez racheté, repris ou que celui qui vous emploie apporte ces structures pour différentes raisons, justement, à un repreneur. Et on avait un mécanisme qui était intéressant, qui était de dire, la société qu'on vient de créer, elle existe. Demain, elle sera peut-être qu'une filiale, mais on vous permet d'échanger les titres ou les droits, plutôt que les titres, parce que vous ne les aviez pas toujours, ça dépend du stade dans lequel vous êtes, les droits auxquels vous pouviez prétendre, contre des titres ou des droits sur une nouvelle société. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on vous disait, ben à ce moment-là, je fige la plus-value éventuelle.
Oui.
On ne l'oubliait pas, mais vous ne la paierez qu'au moment où vous céderez ces titres nouveaux. Or, la loi change, ou la loi changerait, parce que tout ça n'est pas peut-être encore définitif, mais on vous dit maintenant que le gain d'acquisition, c'est-à-dire cette, ce prix qu'on vous a donné au départ entre le moment où vous avez reçu ou perçu ces titres et le moment où vous les apportez, va être taxable immédiatement. Or, vous n'avez pas la contrepartie.
Ah oui, c'est ça.
Donc, ça veut dire que ça va plomber terriblement ce régime, qui n'est pas surdimensionné et qui n'est pas forcément très, 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 très employé, parce qu'il est complexe. Mais le sujet va être là. Donc, on va vous demander d'anticiper un revenu sur quelque chose qui ne vaudra peut-être plus rien après. Oui. Donc, ça va terriblement faire flancher ce mécanisme. Ensuite, il y a quand même un autre sujet, c'est qu'on considère que ces BSPCE, pour aller dans la lignée de ce qu'on vient de dire, ben, ne pourront pas être inscrits sur un PEA, ou bien sur un PEA-PME à partir du 10 octobre 2024. C'est-à-dire que c'était déjà hier. Donc ça supprime un avantage vraiment supplémentaire.
Alors qu'on avait le droit jusqu'à présent.
Alors qu'on avait le droit jusqu'à présent. Donc ça les rend nettement moins attractifs. Ça veut dire que finalement, dans l'esprit de l'administration, et je conclurai là-dessus, depuis longtemps, le fait d'avoir de l'actionnariat salarié n'est pas très bien perçu.
Ouais. Alors que ça devrait l'être.
Ben oui. On peut le penser.
je le rappelais en préambule, Jérôme Barré, on est en plein processus législatif, donc on a eu la commission des finances avec tout son cirque d'amendements. On est maintenant dans l'hémicycle où on discute, il y a des tas de choses qui se disent, qui se racontent, qui s'invectivent. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de ce maelstrom, de ce combat? Parce que parfois c'en est un.
Alors, si on se souvient, il y a eu beaucoup de mesures, c'est la foire de Paris, ouais, si je puis dire.
Concours Lépine.
Ça ressemble au concours Lépine, quelqu'un l'a dit. Alors je suis un peu sévère en disant ça, parce que chacun joue pour son domaine et je peux le comprendre. Mais il y a eu au moins 7 mesures qui ont été émises, qui n'ont pas été retenues par la commission, mais qui vont être redébattues. La première, c'est flat tax. Prélèvement forfaitaire unique a été relevé de 30 à 33%. Ce qui veut dire que si on rajoute les 4% de contribution exceptionnelle, quand on est au-dessus d'un million, donc ça nous fera déjà 37, plus éventuellement la contribution additionnelle dont on a parlé tout à l'heure. Donc on peut se retrouver à des montants importants. Et je n'ai pas apporté de simulation ici, mais si vous avez majoritairement des revenus du patrimoine versus des revenus d'activité, vous allez voir que là, vous tombez rapidement, et pour des revenus élevés, on est d'accord, et vous tombez rapidement, justement, dans l'application de la contribution différentielle dont on parlait. Donc la contribution différentielle, l'idée c'était de dire elle existe, on veut qu'elle dure. Deuxième sujet. Troisième sujet, droit de succession. En droit de succession, il faut bien voir que on est les champions du monde. On est les champions du monde au moins en Europe. Parce que en ligne directe, Portugal, Luxembourg, Suisse en cas de succession, Espagne dans certaines provinces, Allemagne on est à 30%, mais au-delà de 26 millions. En Italie, vous avez 1 million de votre vie durant et 1 million au moment de votre décès. Donc, vous arrivez avec 4 enfants et vous êtes à 0 pour 16 millions. Et on a 4% le reste du temps. Là, nous, on est déjà à 45% au-delà d'1 million 8. Nos voisins sourient. Et nous, on sourit beaucoup moins parce qu'on voit des chefs d'entreprise qui ont vendu leur entreprise et qui quittent le pays. Alors, ça se fait en douceur, c'est pas très grave. Et comme ils quittent le pays après avoir vendu leur entreprise, l'exit tax, ils connaissent pas. Donc on est dans un schéma où il faut qu'on fasse attention parce que de la ressource d'épargne s'en va. Et ça, c'est très dommageable. Et là, le but, c'était de dire on va doubler les abattements pour les héritiers qui ne sont pas en ligne directe, les frères et sœurs, les neveux, etc. Mais on va hausser le taux d'imposition, non pas à 40, à 40, enfin non pas à le laisser à 45, mais le passer à 49 au lieu de 3,6 millions. Ça, c'est, de mon point de vue, une catastrophe patrimoniale. Quatrième point, les plus-values immobilières. Prévoir qu'elles seraient... on n'aurait plus ce mécanisme d'abattement fiscal jusqu'à 22 ans pour la plus-value, jusqu'à 30 ans pour la CSG-CRDS, mais on passerait à quelque chose qui serait autour de l'inflation. C'est pas du tout la même chose. Or, déjà, 30 ans, si vous disiez votre vie par 30 ans, c'est pas tout à fait spéculatif. Et donc, ça veut dire qu'en fait, vous ferez vos opérations une ou deux fois. Et ça, ça concerne tous les patrimoines. Vous avez aujourd'hui beaucoup de retraités qui voudraient bien vendre, mais qui attendent le délai parce qu'ils en ont besoin pour leur retraite. C'est dommage. Le cinquième point, c'est les superdividendes et les rachats d'actions. Dès lors qu'on appliquerait une majoration de prélèvement forfaitaire à 35% pour les distributions de dividendes et pour les grandes entreprises qui ont plus de 20% de la moyenne des années en volume de distribution. L'exit tax qui passerait d'un délai de 2 ans à 15 ans. Donc on annule ce qui avait été fait, monsieur Et puis c'est totalement contraire à la liberté d'aller venir, ça on pourra parler à un autre sujet. Le pacte Dutreil, l'idée c'est de maintenir l'outil professionnel en France, de maintenir la masse salariale,
d'anticiper... Outil très utilisé. Hein.
Largement, mais qui est compliqué. Il ne faut pas croire que c'est un clin d'œil, c'est vraiment très très compliqué à appliquer. Là, on supprimerait l'abattement de 75%. Bon, donc tous ces éléments-là sont des éléments qui sont de nature à faire réfléchir aujourd'hui les chefs d'entreprise et les propriétaires qui ont été marqués par ce qui a été dit, et je peux vous dire qu'on sent qu'il y a, une angoisse, une véritable inquiétude.
On rappelle que tout ça, c'était en commission des finances, que la commission des finances n'a pas voté pour toutes ces mesures, donc il n'y aura pas de projet en ce moment, enfin il n'y a pas de projet en ce moment de la commission des finances. C'est-à-dire que ces amendements, qu'est-ce qui leur arrive désormais? C'est au petit bonheur de la chance de l'hémicycle?
Eh bien, mercredi, nous y sommes, mercredi, c'est le moment où on va rediscuter. Alors, le gouvernement veut passer éventuellement, il ne le souhaite pas, il l'a dit, mais il sera peut-être obligé de passer par 49.3, son existence sera peut-être là, donc ça va être difficile. Hein. Donc, ces mesures, on va voir comment elles vont prendre. On voit bien qu'il y a, un caractère extrêmement politique et que ce n'est pas uniquement une question de recouvrer des recettes, mais c'est à chacun de faire valoir sa voix, ce qui est peut-être un moment idéal compte tenu de la disparité et de l'éparpillement des blocs. Mais c'est quelque chose qui peut gravement affecter la marche des entreprises et la vie des contribuables.
Hein. Allez, on termine, Jérôme Barré, par un dernier mot sur les mesures qui touchent les entreprises, la fiscalité des entreprises dans ce projet de loi.
Alors, là encore, beaucoup de choses, enfin, au moins trois points. La contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises, c'est-à-dire une taxe temporaire qui s'appliquerait aux entreprises réalisant des bénéfices exceptionnels, notamment les grandes entreprises. Alors ça, vous savez, ça dure depuis longtemps. Déjà, du temps de l'ancien ministre des Finances, on en parlait. Deuxième point, report de la suppression de la CVAE. Là, il faut voir que depuis qu'on a supprimé la taxe d'habitation, on a une inflation, qui dépasse largement l'inflation, des taxes locales. Les communes ne s'en sortent pas. Le gouvernement se désengage de ces aspects-là. Donc on voit bien que la taxe foncière augmente. De la même manière, pour trouver de la ressource pour les communes, on reporte la CVAE. De là à ce qu'on nous dise un jour qu'elle n'est pas abandonnée comme elle l'avait été annoncée il y a quelques temps. Ensuite, verdissement de la fiscalité, donc une recherche d'une taxation. J'ai bien une recherche parce que ça sera des choses qui se mettront en place au fur et à mesure, qui commencent à se mettre en place. Taxation donc plus élevée sur les secteurs les plus polluants, en particulier le transport aérien, pour encourager des pratiques plus durables.
Et ben voilà, ça fait... Il y avait aussi quelque chose sur les dividendes, non?
Alors, sur les dividendes, on l'avait évoqué, mais là, c'est pour les personnes physiques. Ouais. C'est quand il y aurait des super dividendes. Donc, sur une moyenne qui serait supérieure à une moyenne des 5 dernières années, on appliquerait 20% de taxation en plus pour les particuliers.
Eh bien, voilà quelques idées. On va continuer à suivre, bien évidemment, les débats parlementaires. Et nul doute qu'on aura sans doute l'occasion de se pencher sur une version finale pour voir à quelle sauce on est mangé, Jérôme.
L'aventure n'est pas finie.
Jérôme Barré, le cabinet Yards qui nous accompagnait dans Cœur de patrimoine. Merci, Jérôme.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.